plus un poète s'avance dans le monde du mystère, disait Saint John Perse, plus il a besoin de sa mémoire et de sa volonté. De quelle mémoire et de quelle volonté s'agira-t-il pour lui, le Guadeloupéen, l'insulaire, face à notre monde contemporain, Henri Van Leer?
Et si pour nous aider à passer du monde grec et renaissant, de ce que nous avons appelé le monde 2, au monde contemporain que nous avons appelé le monde 3, si on en appelait tout d'un coup à quelqu'un du monde 1, c'est-à-dire si on demandait à un de ces messieurs d'Atlantique, comme on disait depuis le XVIIe, le XVIIIe siècle, si on demandait à un de ces créoles qui a vécu encore dans le monde presque d'avant la Grèce, le monde d'avant la forme, un univers où on organisait l'environnement et le temps par pulsation, par agrégation de proximité, si on lui demandait à lui de venir éclairer la révolution en cours, on obtiendrait presque un résultat inverse de celui de Claudel. Au moment où il sent le changement, Claudel essaye de prendre ce monde passé à bras-le-corps. Il se retourne vers le passé. Et pour opérer ce changement, Saint John Perse, lui, qui part en quelque sorte de la naïveté de ce mondain, peut se tourner vers l'avenir. Vers l'avenir d'abord, qu'est la Grèce? Qu'est la découverte de la forme? Et dans une naïveté, une spontanéité tellement grande que pour finir, cette forme va s'ouvrir, cette forme grecque va donner lieu à sa mutation de l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Nous sommes vers les années 1910. Les viandes grillent en plein vent. Les sauces se composent. Et la fumée remonte les chemins à vif et rejoint qui marchait. Alors le songeur aux joues sales se tire d'un vieux songe tout rayé de violence, de ruse et d'éclat. Et orné de sueur, vers l'odeur de la viande, il descend comme une femme qui traîne ses toiles, tout son linge et ses cheveux défaits. Il n'y a plus à faire aucun effort. Il n'y a plus à instaurer, comme chez Rimbaud, ou comme chez Claudel, ou même Valéry, ou Mallarmé, il n'y a plus à instaurer aucune violence. Non, il n'y a qu'à prendre le pas le plus immédiat, le plus évident, voir arriver vers soi une langue qui est faite, mais qui, étant en décalage avec sa perception, cette langue du monde que nous avons appelé le monde 2, cette langue qui crée des formes solides, en la saisissant ainsi, à partir de l'agrégation, de la pulsation immédiate, chaque mot arrive avec son extase. Et en même temps, comme s'explose de l'intérieur. C'était en France, au moment où ces vers ont paru, une sorte d'atterrement, tant c'était en dehors de toutes les solutions connues. Et voici l'éloge d'une reine. « Haute asile des Grèces vers qui cheminent les désirs » d'un peuple de guerriers muets à valeur de salive. Ô reine, romps la coque de tes yeux, annonce en ton épaule qu'elle vit. Ô reine, romps la coque de tes yeux, sois-nous propice, accueille un fier désir, ô reine, comme un jeu sous l'huile, de nous baigner nus devant toi, jeunes hommes. Plus une image, on a l'impression qu'il n'y a même plus ni métaphore, ni métonymie, qu'il y a l'immédiateté du perçu. Et pour finir, d'un perçu qui n'est même plus individuel, qui est celui de presque de tout être humain comme tel. Ô bien assise, ô lourde, tes mains pacifiques et larges sont comme un fait puissant de palmes sur l'aise de tes jambes. Ici et là où brille et tourne le bouclier luisant de tes genoux, et nul fruit à ce ventre infécond, scellé du haut nombril, ne peut pendre sinon par on ne sait quel secret pédoncule nos têtes. Reine parfaitement grasse, soulève cette jambe de sur cette autre. Et par là faisant don du parfum de ton corps, ô affable, ô tiède, ô un peu humide et douce, il est dit que tu nous dévêtiras d'un souvenir cuisant des champs de poivriers et des grèves où croît l'arbre à cendres et des gousses nubiles et des bêtes à poche musquées. Et tout est indiqué. On va à la ligne chaque fois que l'on veut créer cette idée entourée par du blanc dont parlait Claudel, chaque fois que l'on veut créer cette césure dont parlait The Rationale of Verse d'Edgar Poe. Il est dit que tu nous dévêtiras d'un souvenir. Ah, nécessaire et seul, il se peut qu'aux trois plis de ce ventre réside toute sécurité de ton royaume. Et voici la fin. Et la lune qui gouverne les marées est la même qui commande au légal, au rite orgueilleux de tes menstrues. Et voilà un corps singulier réuni à toute la houle de l'océan. Mais de plus, nous n'allons pas rester dans la sensation et la perception immédiate. Et ce que nous venons de lire est la première partie d'un système. Bien entendu, on part de la reine, c'est elle qui est basale. Mais maintenant, il faudra donc envisager l'amitié du prince, puis l'histoire du régent, puis la chanson du présomptif, pour que chaque geste de la vie quotidienne, pour que chaque partie des corps, je n'ose pas dire organe, soit repris dans la magnificence de la distribution sociale. Amitié du prince, et toi plus maigre qu'il ne s'y est au tranchant de l'esprit. Ô mon narine mince parmi nous, ô très maigre, ô subtil, prince vêtu de tes sentences ainsi qu'un arbre sous bandelette. Histoire du régent. Tu as vaincu, que le sang était beau, et la main qui du pouce et du doigt essuyait une lame. Et enfin, bien sûr, la chanson du présomptif, celui qui annonce l'avenir et qui, pour finir, dit « J'honore les vivants, j'ai hâte parmi vous !» Et les derniers mots, « Tous les chemins du monde nous mangent dans la main. » Cet homme a environ 20 ans. Il est mûr, comme disent les notices, pour devenir bientôt ambassadeur et secrétaire général au ministère des Affaires étrangères le 28 février 1933. Il gardera, la notice continue, pendant plus de 7 ans, sous de multiples formations gouvernementales, la direction générale de tous les services du Quai d'Orsay. Il est mûr aussi pour écrire le, je cite le titre, Mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne, entre parenthèses, projet d'organisation internationale européenne conçu et rédigé pour le gouvernement français par Alexis Leger, chef de cabinet d'Aristide Briand, 1936. L'homme est donc parfaitement double. Il est en même temps la poésie et l'action, ne mêlant jamais l'un et l'autre. À cet égard, peut-être le plus surprenant est l'écriture de Saint John Perse, D'abord, on tombe sur des documents, on dit, mais quoi, il écrit comme dans l'imprimé. Eh bien, c'est une écriture fabriquée, faite par lui. Il a littéralement deux écritures, comme il y a dans l'existence de Saint-Jean-Perse. Claudel souffrait atrocement des réunions d'ambassade, de la vie mondaine à laquelle il était acculé par ses fonctions. Il était aussi au Quai d'Orsay. Saint-Jean-Perse n'a pas le même problème. Il peut arriver à être cet homme totalement attentif aux affaires, totalement courtois, comme s'il l'était du fond de lui-même, et en même temps celui qui écrit les poèmes que nous venons de lire, mais aussi celui qui va traverser les déserts à dos de cheval, qui va jusqu'à la fin de sa vie traverser les mers et les océans, généralement seul ou très peu accompagné, et se forçant à ce qu'il n'aime pas. Lui, homme d'Atlantique, c'est-à-dire l'homme des Antilles, n'aimant pas la Méditerranée, n'aimant pas le monde gréco-latin, et se forçant, à la fin de sa vie, à explorer pendant des mois les côtes de la Méditerranée pour y sentir la descente de la montagne dans la mer, pour y sentir tous les mouvements de la planète, de toute l'histoire de la planète, pour en explorer toute la faune et la flore, tout en n'étant jamais sur la même longueur d'onde que les événements historiques extraordinaires qui s'étaient passés là, mais précisément les respectant. Non pas un homme de religion, mais un homme de respect. Nous l'avons laissé sur Éloge, les poèmes d'Éloge. Ce titre est si beau, écrivait-il à André Gide, que je n'en voudrais jamais d'autre si je publiais un volume ou d'autre. J'aime bien l'éloge pour l'éloge. Cela commande au départ un certain ton, appelle une certaine hauteur, oblige à se situer un peu au-delà de soi-même. L'important est de ne pas se laisser diminuer par l'habitude, l'accoutumance, se garder le loisir de demeurer nouveau devant tout ce qui peut apparaître de neuf. C'est bien cette Méditerranée qu'il n'aimait pas et que pourtant il continuait d'explorer jusqu'à la fin. Il ajoute, « Si j'étais croyant, Dieu serait pour moi l'inaccoutumé par excellence. » Nous passons à la base, puis tous ces papiers entre 30 et 40 sont dispersés par la Gestapo, on ne les a plus retrouvés, et nous le retrouvons en 1945, il doit approcher la soixantaine. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde. De très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient hommes de paille, en langue de paille, sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivant. Et c'est toujours la même évidence que celle d'Éloge. Bien sûr, il faut connaître le mot « air » qui vient d'errer, élan de paille sur leur air. Il faut sentir la vie paysanne, savoir ce que c'est que le moment dans l'année, le moment de la paille. Mais sinon, rien de forcé, rien de boursouflé. C'était de très grands vents. Assurément, il y a toute cette maîtrise du jeu avec le A nasalisé. Et sur ce A nasalisé qui nous met dans le continu du monde, dans le flux du monde, tout d'un coup, on ne fait pas un monde rien qu'avec du continu. Il faut du discontinu, il faut de l'articulation. De grands vents sur toute face de ce monde. Et on a gardé le A, mais on est passé au A oral. De très grands vents en liesse. On passe quand même maintenant du « ah ouais » pour faire sentir ce que c'est que l'émergence et la rupture par le monde, qui n'avait d'air ni de gîte, qui n'avait garde ni mesure, et nous laissait hommes de paille, en lents de paille, sur leur erre. Ah oui, de très grands vents, sur toute face de vivant. Et cette fois-ci, le A est repris, mais il est comme neutralisé. Le discontinu est comme neutralisé et repris dans la nasalisation de vivant, après la pointe du I. Comme on le remarque, et c'est comme ça depuis Anabas, tout est scandé chez Saint John Perse 4-6. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient hommes de paille en l'an de paille sur leur air. Ce dispositif 6 ou 4, partout 4 ou 6, est remarquable en ce qu'il permet une diction à la fois soutenue haut, je parle dans l'estime, disait Saint John Perse, une pulsation parfaitement égale, et en même temps un langage absolument précis, juridique, quasiment scientifique, parce que la contrainte n'est pas aussi forte, par exemple, que dans les versets rimés, qui sont ceux des textes lyriques, je ne dis pas des textes dramatiques, mais des textes lyriques de Claudel. Et nous allons manipuler l'histoire entière, qui est une succession de révolutions, qui est une succession de nettoyages, et en même temps de recensions, flairant la poudre. Les vents, toujours, qui vont circuler maintenant, et qui vont faire le tour des civilisations, pénétrer dans nos bibliothèques, pénétrer dans tout ce que nous avons créé pour nos stabilités, flairant la pourpre, le silice du moine, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses, et qui couraient à leur office sur nos plus grands versets d'athlètes de poètes. Parce que c'est bien des deux côtés, chez l'athlète comme chez le poète, c'est bien le même effort, c'est bien aussi la même mesure, comme nous avons vu les menstrues de la reine devenir les marées de l'océan. C'était de très grands vents, en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur toute chose saisissable parmi le monde entier des choses. Alors la syntaxe est toujours d'une extraordinaire simplicité. Elle est littéralement agglutinante, comme tout ce qui se passe dans le monde 1. Elle procède par agrégation, agrégation de continuité. Et ce que nous allons lire justement est quelque chose peut-être d'un peu exceptionnel, à moins qu'on voit le décochement du fantasme, et d'éventer l'usure et la sécheresse au cœur des hommes investis, voici qu'ils produisaient, les vents bien sûr, hein, qu'ils produisaient ce goût de paille et d'aromate sur toute place de nos villes, face place maintenant, comme au soulèvement des grandes dalles publiques, et le cœur nous levait aux bouches mortes des offices, des musées, des uffizis bien sûr, et le Dieu refluait des grands ouvrages de l'esprit. Ah, tout va pouvoir en même temps, sans doute, se préparer dans cette désagrégation fantastique. Car tout un peuple, si bruité, dans la sécheresse de sa paille, parmi d'étranges désinences, à bout de cosse, de silique, à bout de choses frémissantes, comme un grand arbre sous ses hardes et ses haillons de l'eau trivée, portant livré de l'année morte, comme un grand arbre tressaillant dans ses crécelles de bois mort et ses corolles de terre cuite, très grand arbre mendiant qui a fripé son patrimoine, face brûlée d'amour et de violence, où le désir encore va chanter. Et je ne ponctue pas, donc nous passons à la strophe suivante, où le désir encore va chanter. Ô toi, désir, qui va chanter. Tout a été nettoyé. La renaissance est devenue possible. La renaissance de quoi? La renaissance de tout. La renaissance de l'amour, bien sûr. La renaissance des plantations. La renaissance du soleil. La renaissance des civilisations. Et de notre point de vue à nous maintenant, bien sûr, cette renaissance d'une taille encore plus grande que les civilisations, qui est ce passage de l'univers de la forme intégrée à celui de l'élément en fonctionnement, qui est le monde contemporain, et renaissance aussi du poème. Et ne voilà-t-il pas déjà, toute ma page est le même bruissant, comme ce grand arbre de magie sous sa pouillerie d'hiver, vint de son lot d'icônes de fétiches, tous ces arbres très secs, dont les bourgeons sont comme des statues, berçant dépouilles et spectres de locustes, léguant, liant au vent du ciel, filiales d'ailes et dessins, les et relais du plus haut verbe, à très grand arbre du langage. Apothéose du art, peuplé d'or. Il faut ouvrir tout ça par un i maintenant, de maxime, et murmurant, murmure d'aveugle nez dans les quinconces du savoir. Et voilà, c'est bouclé, c'est l'entrée, et nous avons une théorie complète, presque de la poésie, de l'histoire, de la parole, du texte, de la mémoire. Et bien sûr, dans cette saisie, on va pouvoir parler de la sexualité, et plus exactement même du coït humain, comme de tout le reste. Voici que le coït humain, le grand refoulé, celui dont ne parle jamais Freud, par exemple, qui parle de sexualité, mais pas du coït humain, voici que le coït humain est agrandi aux dimensions même de toute l'existence et de tout l'univers, à l'occasion de ce qui lui est le plus proche, le plus natal, la mer. Le dernier grand poème de Saint John Perse sont les amers, c'est-à-dire tous ces bâtiments un peu extraordinaires qu'il y a le long d'un littoral et qui permettent de se repérer quand on est sur l'océan, mais qui en même temps montre à quel point toute la civilisation est sortie de la mer et se nourrit de la mer. Et donc au bord de la mer, on va convoquer toute l'histoire humaine, avec les tragédiennes, avec les épopées, mais pour finir, vraiment à la fin, on va convoquer les amants. Amants, ô tard venu parmi les marbres et les bronzes, toutes les villes qui sont construites là autour de l'eau, dans l'allongement des premiers feux du soir, amants qui vous taisiez au sein des foules étrangères, vous témoignerez aussi ce soir en l'honneur de la mer. Étroits sont les vaisseaux, étroite notre cour. C'est bien cet agrandissement dont nous avions parlé, la couche, comme le vaisseau, est sur la mer entière. Immense l'étendue des eaux, plus vaste notre empire aux chambres closes du désir. Ces chambres sont étroites, parce qu'elles sont closes, mais elles sont en même temps infinies par le rythme qui les soulève, qui est celui du désir. Entre l'été qui vient de mer. À la mer seule, nous dirons, nous les amants, Quels étrangers nous fûmes au fait de la ville, et quel astre montant des fêtes sous-marines s'en vint un soir sur notre couche, flairer la couche du divin. En vain la terre proche nous trace sa frontière, une même vague par le monde, une même vague depuis Troie roule sa hanche jusqu'à nous. Depuis Andromaque et Hector, c'est bien ce même mouvement qui passe. Et c'est pas seulement la vague, mais c'est la houle. Au très grand large loin de nous fut imprimé jadis ce souffle. Et la rumeur un soir fut grande dans les chambres. La mort elle-même, à son de conque, ne s'y ferait point entendre. Et ce dialogue encore dans les chambres. Et alors c'est un immense dialogue de 100 pages entre la femme et l'homme. Bien entendu, la femme d'abord, comme la reine était venue avant le prince. Et la voici qui parle. Amour, amour, qui tient si haut le cri de ma naissance. Qui l'est de mère en marche vers l'amante? Vigne foulée sur toute grève, bienfait d'écume en toute chair, et chant de bulles sur les sables. Et voilà l'homme. Au cœur de l'homme, solitude. Étrange l'homme sans rivage près de la femme riveraine. Et mère moi-même à ton orient, comme à ton sable d'or mêlé, que j'aille encore et tarde sur ta rive, dans le déroulement très lent de tes anneaux d'argile. Âme qui se fait et se défait avec la vague qui l'engendre. Le poème est immense. Je le prends après la culmination de l'orgasme. C'est de nouveau la femme qui parle. À ton côté rangé, comme la rame à fond de barque. À ton côté roulé, comme la voile avec la vergue au bas du mât lié. Un million de bulles plus qu'heureuses dans le sillage et sous la quille. Et la mer elle-même, notre songe, comme une seule et vaste ombelle, et son million de capitules de florules en voie de dissémination. Je crois que Saint John Perse a fait lui-même son épitaphe. Il a prononcé le 20 avril 1965 le discours rituel prononcé chaque siècle, célébrant la naissance de Dante. Heureuse Florence et la terre de Toscane. Heureuse cette part du monde latin où sous le signe des Gémeaux, par son double destin d'homme de songe et d'action, d'homme d'amour et de violence, d'homme, d'enfer et de ciel, naquit, un jour de mai, Dante, Delie, Alighieri, homme de poésie. Il n'y a qu'à transformer quelques mots. Heureux Lillet, saint Leger les feuilles, et la terre d'Atlantique. Heureuse cette part du monde latin, ou sous le signe des Gémeaux, le 31 mai 1887, pour son double destin d'homme et de songe et d'action, d'homme d'amour et de violence, d'homme d'enfer et de ciel, naquit un jour de mai. Qui nous savons ? Saint-Jean Perse, homme de poésie.